accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui parle de la vie des Européens avec, bien sûr, les Écossais qui prennent aujourd'hui leur destin en main. Un détenu belge qui a obtenu le droit d'être euthanasié. Des retraités grecs qui reviennent au village. Un ancien footballeur de génie qui se lance sur le terrain politique en République tchèque. Et un prototype de voiture en bois en Finlande.
Let it all boast. Of her gay gilded waters, her vines and her bowers, and her soft sunny skies. Her sons drinking love from the eyes of her daughters, where freedom expires amid softness and sighs. Scotland's blue mountains wild, where hoary cliffs are piled, towering in grandeur are dearer to me.
Les Écossais vivent donc une journée décisive pour l'histoire de leur pays. Depuis ce jeudi matin, les 4 200 000 résidents écossais sont appelés aux urnes pour se prononcer sur leur indépendance. Le taux de participation devait être très important, voire record. Mais si beaucoup étaient certains de voter depuis des mois, le choix final n'a pas été toujours aussi facile. Le reportage de Marie Billon, quelques heures avant la fin de la campagne.
Jusqu'au tout dernier moment, les partisans du oui et du non, la Yes Campaign et la Better Together Campaign, ont tenté de gagner des voix. Ce jeudi, les militants des deux bords ont passé des appels pour encourager les gens à aller voter. Du côté du non, jusqu'au bout, les partisans ont fait du porte-à-porte pour gagner les électeurs à leur cause.
Alors ce que vous avez à faire, c'est frapper à la porte de gens dont on sait qu'ils votent non parce qu'ils nous l'ont déjà dit, mais c'était il y a 6 mois. Donc on veut vérifier qu'ils vont bien aller voter et qu'ils n'ont pas changé d'avis. Si c'est le cas, discuter avec eux et bien sûr, il faut convaincre les indécis.
À quelques centaines de mètres de là, la Yes Campaign a elle aussi fait du porte-à-porte jusqu'à la dernière minute.
Hi, my name's Ben. I'm a volunteer with Yes Scotland.
Bonjour, je m'appelle Ben. Je suis un volontaire pour Yes Scotland. Vous avez une minute? Pour le référendum, avez-vous décidé ou est-ce que vous hésitez toujours?
Il va voter non, mais il a envie de voter oui.
Be brave, stand up tall.
Ah, il faut être courageux, être droit dans ses bottes.
Alors dites-moi, qu'est-ce que ferait le parti majoritaire, le SNP, s'il a les rênes du gouvernement d'une Écosse indépendante?
Il peut faire plein de choses.
Dites-moi quoi?
Quand on aura tous les leviers du gouvernement, on pourra changer la manière dont on lève les impôts pour accélérer la croissance écossaise.
Comment allez-vous faire ça? C'est du blabla de politicien, ça. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire?
L'homme est très coriace et le débat dure plus de 15 minutes, mais Ben ne parvient pas à le faire changer d'avis. Il s'en va, frapper à d'autres portes, fair play et optimiste.
C'est vraiment cool de parler avec vous. We've taken a lot of people from...
Au début, il y avait des gens qui étaient pour le non par défaut. Puis on leur a montré qu'il y avait plein de gens bien qui votaient oui. Et on a réussi à ouvrir le débat. Il y a tellement de gens qui étaient pour le oui, puis ne l'étaient plus, et finalement sont repassés au oui.
Et dans les rues d'Édimbourg, il y a effectivement beaucoup de convaincus. De nombreuses façades de maisons arborent la pancarte bleue du yes.
I'm definitely a yes.
Je vais voter oui, c'est clair. Ça fait très longtemps qu'on attend du Royaume-Uni qu'il fasse plus attention aux régions. Mais il ne fait rien. Londres a de plus en plus de pouvoir et d'argent et ça empire.
It's not getting better, it's getting worse.
Si les derniers sondages donnaient une légère avance au oui sur l'ensemble de l'Écosse, dans la capitale écossaise, c'est le non qui semblait majoritaire.
None of the arguments.
Aucun des arguments que j'ai entendus n'est assez fort pour faire tomber 300 ans d'union. Et maintenant, c'est vraiment pas le moment pour diviser un pays alors que le monde est déjà en train de tomber en morceaux.
Je vais voter non. Casser ce que nous avons serait une catastrophe totale et entière.
Stuart dit que la campagne ne l'a pas fait changer d'avis. La plupart des gens disent être convaincus depuis longtemps, mais jusqu'au dernier moment, il y a quand même eu des indécis.
Il y a tellement de pour et de contre de chaque côté, j'attends encore un peu avant de choisir.
Ce sont des électeurs comme lui que les deux camps ont cherché à convaincre jusqu'au dernier moment. La Yes Campaign et Better Together ont utilisé la méthode douce pour gagner des voix, mais tous les Écossais n'ont pas fait preuve d'autant de calme, surtout les derniers jours qui ont précédé le vote de ce jeudi.
Je vis dans les Highlands et je suis descendu à Édimbourg pour ne plus être la cible de la campagne d'intimidation que certains ont entrepris là-haut. Il y en a qui, dès qu'ils pensent que quelqu'un va voter non, ils le harcèlent, lui crient dessus. Si quelqu'un colle un sticker « non merci » quelque part, il est arraché. C'est vraiment très désagréable.
It's very unpleasant.
En fait, des stickers arrachés à Édimbourg, on en voit quand même souvent. Et ce sont des autocollants du « yes » et du « no ». Pour un référendum qui pourrait couper un pays en deux, la campagne a quand même été très calme. Un seul œuf a été lancé sur un parlementaire britannique. Et si dans les familles, les débats autour de la table ont pu être vifs, aucun des camps n'a peur que l'Écosse reste durablement divisée après les résultats.
En Belgique, un détenu de longue date va enfin être libéré de la douleur psychique qu'il dit éprouver. Il a demandé et obtenu d'être euthanasié. Ce n'est pas une première, mais ce détenu est le premier interné psychiatrique à pouvoir bénéficier de la loi sur l'euthanasie. Pour en parler avec nous, Pierre Benazet à Bruxelles. Alors, qui est cet homme et pourquoi a-t-il été condamné ?
Il s'appelle Frank van den Bleken et le 1er janvier 89, il a sauvagement violé et assassiné une jeune étudiante dans la région d'Anvers, en Flandre. Il a été condamné à la perpétuité pour ces faits, survenus après d'autres viols commis dans les années 80. Et au cours de son procès, il avait été établi qu'il n'était pas responsable de ses propres actes. Et depuis 1989, Frank van den Bleken n'est sorti qu'une seule fois de sa cellule. C'était pour l'enterrement de sa mère. Il est détenu dans l'antenne psychiatrique de la prison de Turnhout, près de la frontière néerlandaise. Il n'est donc pas un simple détenu, mais un interné, selon le vocable en vigueur au sein de l'administration pénitentiaire belge.
Alors Pierre, pourquoi cet homme a-t-il demandé l'euthanasie ?
Eh bien, au départ, il semble qu'elle lui ait apparu comme la seule alternative, si vous voulez, à une autre demande. Frank van den Bleken avait entamé ses procédures en justice afin d'être transféré aux Pays-Bas à Utrecht pour bénéficier d'une thérapie dans un centre médico-légal pour la psychologie et la psychiatrie, un centre spécialisé, entre autres, dans les responsables de crimes graves. L'administration pénitentiaire belge n'offrant que des annexes psychiatriques aux prisons, des annexes qui n'étaient pas spécialisées ou équipées pour des thérapies pour ce genre de cas. Mais après examen de son dossier, il avait été débouté en première instance, puis en appel. Les tribunaux belges avaient estimé que le ministère de la Justice n'avait pas compétence pour décider du transfèrement ou de l'extradition d'un détenu, qu'il soit ou non interné psychiatrique d'ailleurs.
Alors donc, il a opté pour l'euthanasie comme solution de repli en quelque sorte ?
Oui, c'est en tout cas ce que disent les commentateurs en Belgique. Certains vont même jusqu'à estimer que ça peut s'apparenter à une forme de chantage pour renforcer les arguments en faveur de sa demande de transfert aux Pays-Bas. C'est en tout cas l'avis de l'éditorialiste du journal Le Soir. Les proches de la jeune femme assassinée ne décolèrent pas pour leur part. Ils auraient souhaité que Frank van den Bleken reste en prison jusqu'à son décès. En tout état de cause, sa demande d'euthanasie avait été déposée en même temps que sa demande de transfert. Frank van den Bleken estimait ne pas être libérable parce que, de son propre aveu, il pose toujours un danger à la société. Il affirme être sous le coup d'une souffrance psychique insupportable, ce qu'il place dans les critères de la loi belge sur l'euthanasie. Trois médecins doivent donner leur avis dans le cas d'une demande motivée par une souffrance d'ordre psychiatrique et ils ont donné leur aval.
Donc Pierre, ce n'est pas la justice qui autorise ou non l'euthanasie d'un détenu ?
Non, non, vous avez raison, la procédure est uniquement du ressort de la médecine. En revanche, l'appareil judiciaire est intervenu pour les détails pratiques, en l'occurrence sous la forme d'un accord avec le ministère de la Justice et l'administration pénitentiaire, un accord en vue de sa sortie de prison pour la procédure d'euthanasie. Jusqu'ici, deux détenus ont eu le droit en Belgique de recourir à l'euthanasie, dont un il y a deux ans, pour qui la procédure s'était déroulée dans l'annexe hospitalière de la prison de Bruges. Frank van den Bleken, lui, bénéficiera d'une autorisation de sortie pour que la procédure s'effectue dans un hôpital en présence de ses proches, une procédure qui doit durer 48 heures.
Merci Pierre Benazet à Bruxelles. La Belgique où les demandes d'euthanasie ont explosé en 2013, 1807 personnes, c'est 27% de plus qu'en 2012. Cela fait 12 ans maintenant que les autorités belges ont légalisé sous condition l'euthanasie pour les adultes. La Belgique, qui en février dernier a été le premier pays au monde à autoriser les enfants atteints d'une maladie incurable à choisir l'euthanasie pour abréger leur souffrance. Et nous reprenons aujourd'hui la route des campagnes grecques en compagnie de nos reporters cyclistes Charlotte Stevenard et François Chevret. En Grèce, où la plupart des citadins ont une maison à la campagne, souvent la maison familiale, le pays a subi un exode rural massif après la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 70. Beaucoup de villages se sont vidés. Alors pour la retraite, les exilés reviennent y habiter l'été. C'est le troisième épisode de notre série « Détour de Grèce ».
Thomas Vrakas fouille dans les placards de sa mère, décédée en janvier. Il cherche de quoi faire du thé. Il est de retour à Filiates, où sa mère s'était installée pour régler des histoires d'héritage. Cet homme de 67 ans a grandi à quelques kilomètres d'ici, dans un village tout près de la frontière albanaise. Il est parti pour son service militaire et n'est jamais revenu. Aujourd'hui, il passe sa retraite de pilote de chasse à Athènes. Les jeunes de son village d'origine sont presque tous partis pour fuir la pauvreté, laissant la commune en déshérence.
Quand j'étais jeune, il y avait 3 écoles. Maintenant, il ne reste plus une seule parce qu'il n'y a plus d'enfants. Il y avait 170 écoliers ici à mon époque. 30 habitants seulement vivent encore ici l'hiver. Ce sont surtout des gens âgés. Il reste encore quelques magasins, mais c'est tout.
Cette région du nord de la Grèce, déjà très pauvre, a été dévastée par l'occupation nazie et la guerre civile de 1946 à 1949. Les villageois sont alors partis en masse pour trouver du travail, compromettant toute relance économique. Un phénomène qui s'est accéléré dans les années 60 et 70. Les campagnes ont alors perdu 700 000 habitants partis dans les grandes villes ou à l'étranger, comme en Allemagne ou en Australie. La famille de Thomas n'y a pas échappé.
Après la guerre civile, mon père a été démobilisé. On a construit notre première maison au village. Aujourd'hui, elle est à l'abandon. On n'avait pas d'argent. Mon père voulait partir en Australie. Je ne l'ai pas laissé faire parce qu'ici, on avait un pays plein de richesses. Et puis, mon frère Pavlos est né. J'ai réussi à garder mon père en Grèce, mais plus tard, dans les années 1960, il est quand même parti en Allemagne.
Thomas a alors vu son père et son frère partir. Son frère vit d'ailleurs toujours du côté de Stuttgart. À Koronissia, au milieu du golfe Ambracique, le quotidien est encore rythmé par le petit port. Vers 7h du matin, les pêcheurs reviennent du large. Ce jour-là, ils ne sont que 2. Cheveux blancs et pantalons élégants, Thanasis est venu discuter avec eux. Cet enfant du pays a quitté son village il y a 50 ans. Il est désormais à la retraite.
Je ne viens ici que pour les vacances. Je n'habite plus ici parce que j'avais un travail à Athènes. J'y ai fondé ma famille avec ma femme et mes 2 enfants. Ma vie est là-bas.
Thanasis fait partie de ces ruraux qui ont fait tripler la population d'Athènes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce midi, comme chaque jour de l'été, il déjeune avec ses amis d'enfance qui, comme lui, ont tous quitté la campagne et la pauvreté. Il voulait aussi échapper au seul destin de pêcheur.
Mon père était pêcheur, comme tous les hommes du village. Il nous a aidés, mon frère et moi, à choisir un meilleur métier. Ça a été le cas pour la majorité des jeunes à l'époque. C'est pour cela qu'il n'y a plus grand monde qui vit ici à l'année. Ici, c'est bien pour les vacances, mais pour les pêcheurs, c'est très difficile. Le métier est dur et les revenus sont faibles.
À l'époque, tous ceux qui ont pu passer leur certificat d'études ont quitté le village. D'abord pour aller au collège, puis pour étudier. Aujourd'hui, Koronissia compte 150 habitants. Ils étaient 2 fois plus il y a 50 ans. Plus frappant qu'à Koronissia, sur la rive sud du golfe de Corinthe, dans le Péloponnèse, les maisons vides se succèdent le long de la route. La chaleur est étouffante. Dans le village de Sarada Pichotika, personne ne se risque dehors avant la fin de l'après-midi. Seuls 3 retraités discutent à l'ombre d'un pin maritime. Ils se retrouvent tous les jours pour rompre la monotonie du village sans vie, comme l'explique Kostas.
On fait juste passer le temps. Avant, la vie était agréable ici. Maintenant, avec la crise économique, c'est plus difficile. Il n'y a que nous, les vieux, les jeunes, sont partis à Athènes ou dans les grandes villes à la recherche d'une vie un peu meilleure.
Avec la mer et les plages, même le tourisme n'arrive pas à faire revivre la commune. Le grand bar cafétéria a été rénové, mais les jolis canapés en osier et la musique branchée n'attirent pas vraiment les clients. Le nord du Péloponnèse ne rivalise pas avec les îles pour séduire les étrangers. Et cette année, moins de la moitié des Grecs ont pu partir en vacances. C'est autant de villages qui sont restés vides cet été.
Midfielder Antonin Panenka was the catalyst behind Czechoslovakia's success at the UEFA 1976 European Football Championships. Although Panenka's best known for scoring the winning penalty in the final shootout against West Germany that year, it would be doing him an injustice to say that was his only achievement. Panenka made his name as a midfielder with an uncanny ability to pass the ball incredibly accurately. He wasn't the quickest of players, but his speed of thought caught out opponents on many occasions.
Du sport à la politique, ils ne sont pas rares en Europe et ailleurs à oser franchir le pas. Les exemples sont de plus en plus nombreux. À Prague, le dernier sportif en date à se présenter sur une liste électorale n'est autre que le footballeur de légende, Antonín Panenka. Son portrait avec Alexis Rosenzweig.
Avec l'Algérien Madjer, il est un des très rares joueurs de foot à avoir donné son nom à un geste. Quand Antonín Panenka dévoile sa technique de pénalty, le monde crie au génie ou à la folie, une pichenette insolente réalisée en plus sur le dernier tir au but de la finale de l'Euro contre la RFA à Belgrade. C'était en 1976, le tireur à la moustache et à la nuque longue devient le héros de la Tchécoslovaquie et entre à jamais avec ce but dans l'histoire du football. S'il est parti jouer dans les années 80 en Autriche, c'est avec le club pragois des Bohemians qu'Antonín Panenka a disputé le plus de matchs. C'est ici, après les entraînements, qu'il a travaillé ses pénaltys pendant des heures dans le petit stade du 10e arrondissement de la capitale. Toujours avec sa moustache, mais avec le crâne un peu plus dégarni et davantage d'embonpoint, il est aujourd'hui le président de ce club bien particulier, soutenu à bout de bras par des supporters qui n'ont pas hésité à mettre la main à la poche pour sortir les Bohemians d'une mauvaise passe financière. Et aujourd'hui, à 65 ans, Antonín Panenka veut passer du stade au Parlement, ou à défaut à la mairie. Il est candidat pour les élections sénatoriales du week-end prochain et sera éventuellement sur une liste indépendante pour les municipales le mois suivant. Il peut compter sur le soutien des fans du club et c'est sûrement pour ça qu'il a été attiré dans cette aventure par le maire sortant, un homme pourtant précédé par sa réputation d'opportuniste, déjà impliqué dans quelques affaires et qu'une partie des habitants du quartier essaie de bloquer à coups de pétition pour organiser un référendum local. Peut-être pas la meilleure tactique pour Antonín Panenka, l'ancien meneur de jeu, que quelques dribbles ne suffiront pas à sortir du guépier de la politique pragoise.
A new generation of talent from Helsinki Metropolia University of Applied Sciences applied innovative thinking, futuristic design and bold engineering to create a car that challenges conventions.
Pendant de nombreuses décennies, c'est une industrie qui a tiré vers le haut l'économie de la Finlande. Mais aujourd'hui, les ventes de papier chutent et les industriels du pays nordique cherchent de nouveaux débouchés avec parfois des pistes étonnantes. L'un des plus gros acteurs du secteur, le papetier UPM, vient de présenter sa nouvelle création, une voiture en bois, Pauline Curté.
Ces constructeurs ont dévoilé le prototype au début de l'année 2014. Un véhicule tout en bois, à part bien sûr le moteur. Mais ce dernier, un moteur diesel, utilise un carburant écologique produit à base de copeaux de bois. Les 50 ingénieurs à avoir travaillé sur le projet le garantissent. Ce véhicule est propre, écologique et 95% de ses pièces sont recyclables. Alors bien sûr, le géant finlandais du papier UPM, à l'origine de l'initiative, n'ambitionne pas de devenir constructeur automobile du jour au lendemain. D'ailleurs, la voiture, appelée Bio4 Concept, n'est pas encore prête à être produite à la chaîne. En fait, l'objectif d'UPM est de chercher, petit à petit, à ne plus être qu'un simple producteur de papier. Depuis quelques années, l'industrie est en effet en pleine crise. Les ventes s'effondrent, notamment dans le secteur de la presse, qui délaisse le papier pour se tourner vers Internet, et UPM, comme les autres entreprises finlandaises du secteur, ont beaucoup licencié. Avec cette voiture, la firme veut donc montrer que le bois, s'il n'est plus utilisé pour produire du papier, peut se révéler très utile dans de nombreux autres domaines. Au passage, UPM se rachète aussi une conscience auprès des écologistes, qui accusent souvent l'industrie papetière, grande consommatrice d'eau et de produits chimiques, de polluer l'environnement. Cela dit, si la voiture en bois venait à être commercialisée auprès du grand public, ces mêmes écologistes pourraient bien s'inquiéter des risques accrus de déforestation.
Et c'est la fin de cette émission réalisée et mise en onde par Françoise Grelot. Demain, dans Accent d'Europe, nous reviendrons bien sûr sur les résultats du référendum en Écosse avec la question de la réconciliation entre partisans du oui et du non. D'ici là, on reste ensemble sur les pages RFI, Facebook et Twitter d'Accent d'Europe. RFI.